it's all complete. Yes, I want you to be. There's a trend, there's a friend. It's unknown and me.
Alors, vous reconnaissez la voix de Kurt Cobain. On accueille notre chroniqueur culturel, comme à chaque vendredi, Valérie Roberts. Bonjour Valérie.
Bonjour Bernard.
Alors, tu nous fais entendre Kurt Cobain du célèbre groupe Nirvana. Pourquoi aujourd'hui?
Aujourd'hui, à New York, s'ouvre une enchère sur le rock. Les items du rock qui ont été les plus marquants dans les dernières années. Il y a plus de 700 objets qui proviennent donc de plein d'artistes, plein de groupes qui ont été influents, qui vont être à l'encan aujourd'hui et demain à New York. Et la vedette de cet encan-là, c'est le légendaire gilet en laine vert olive qui a été porté par Kurt Cobain quand il a fait l'enregistrement du spectacle MTV Unplugged en 1993. Pourquoi ce gilet-là en particulier?
Ouais, ouais.
Parce que suite à ce spectacle-là, donc il avait 27 ans à ce moment-là, ça a été tourné en 1993, moins de 6 mois après, il s'est suicidé, donc à l'âge de 27 ans. Et le disque du Unplug, de la prestation, est sorti après sa mort. Et donc, Kurt Cobain, c'est lui qui a créé le look grunge. C'est lui qui avait jamais porté des vêtements de scène. C'est lui qui allait toujours de l'avant en disant, moi, je j'irai pas avec le capitalisme m'acheter des vêtements juste pour faire de la télévision. Je vais porter ce que je désire. Et ce chandail-là, il y a des trous de cigarettes dedans. Oh, c'est comme le Saint Graal des fans de grunge. Et donc, c'est mis aux enchères. C'est la grosse affaire cette semaine. Tu vois,
mis aux enchères pour combien?
50 000 $ Et selon la maison de vente qui s'appelle Julian's Auction, on s'attend à avoir entre 200 000 et 300 000 $ pour ce célèbre chandail-là.
Ils vont avoir plus que ça.
Tu penses?
Je te prédis.
Je pense aussi.
Je te prédis. Ils le mettent en vente à 50 000?
Ouais.
Je te prédis 1,5 million.
Mais moi aussi, moi ce que je pense, c'est 500 000. Mettons autour, tu sais, 450 000, 500 000, 550 000.
Sais-tu quoi? Je serais pas étonné qu'on dépasse le demi-million.
Mais tu vois, ce chandail-là, c'est parce qu'il est emblématique d'une génération. C'est intéressant parce que je lisais un texte sur Internet d'un jeune homme qui s'appelle Olivier Robillard-Laveau. Et lui a écrit à quel point Kurt Cobain avait marqué sa vie à lui.
C'est
cette idée de propager des messages dans la culture populaire, des messages qu'on avait déjà entendus auparavant, là. Des messages comme lui, ce qu'il disait, c'est que les homophobes, ils avaient pas le droit d'être ainsi. Lui, ce qu'il disait, c'est que c'est des crétins. Lui, ce qu'il disait, c'est que Axl Rose, qui à ce moment-là est hyper populaire, mais non, il y a pas d'affaire à être populaire. C'est un cabochon. Il fait des blagues sexistes. La manière dont il traite les femmes comme la marchandise, c'est inacceptable. La société capitaliste, ben, ça peut être malsain. C'était le premier à dire ça dans la culture populaire au début des années 90. Puis toutes les jeunes qui ont suivi le mouvement grunge, qui ont suivi Kurt Cobain, évidemment, c'est quelque chose qui leur est entré en tête. Puis c'est la première fois qu'ils étaient conscients de cette revendication-là, du côté punk un peu, de l'injustice sociale, parce qu'on a le droit d'aller dire que c'est pas correct. Quand même, Kurt Cobain, quand il avait fait la couverture du magazine Rolling Stone, avait porté un chandail. Et sur son chandail, c'était écrit « Corporate magazines still suck ». Donc, les magazines corporatifs, comme exactement le Rolling Stone,
ben
c'est
oui.
Encore de la crotte. Mais je fais la couverture, là. Regardez-moi. Mais
ouais.
Je vais quand même le dire d'avance que c'est pas correct. Kurt Cobain, c'est l'emblème d'une génération quand même.
Ouais, mais tu sais, il a quand même accepté de poser pour Rolling Stone. Là.
Évidemment.
Il est un petit peu en contradiction avec lui-même quant à moi, mais tu pourrais revirer ça à l'envers et dire, ben, il a quand même dénoncé Rolling Stone d'une certaine manière, donc il... Enfin.
Mais s'il y a une affaire qu'on peut pas dire de Kurt Cobain, c'est qu'il avait pas de contradiction. C'était un homme de contradiction, comme toi et moi, Bernard.
Par contre,
il était d'une sincérité, d'une empathie grandiose, d'une humanité incroyable. Puis c'est ce que je pense avec la musique, évidemment, avec son talent musical. C'est ce qui a fait en sorte que c'est devenu l'icône d'une génération, l'emblème d'une génération, Kurt Cobain.
Pourquoi il s'est suicidé en quelques secondes? Est-ce qu'on a une explication?
C'est un mal-être trop grand. Tu peux voir, il y a plusieurs documentaires qui sont sortis. Il y a aussi son autobiographie qui est intéressante. C'est juste un homme qui était tellement dans la création de ses œuvres. Tu l'entends dans les chansons de Nirvana. Là, c'est pas quelqu'un qui vit gaiement, on pourrait dire.
Ouais.
Et donc, ça a fait en sorte que sa vie était trop difficile pour lui. Puis, suite à la venue au monde de sa fille, je pense que ça en était trop.
OK. Ben, en tout cas, on va voir...
Mais on pourra en parler la semaine prochaine. Exact.
On verra combien son chandail troué de cigarettes va se vendre aujourd'hui, donc à surveiller. Bon, là, on veut parler d'une nouvelle série.
Absolument. Nouvelle série qui a été annoncée cette semaine.
Oui.
Ça s'appelle Les Mecs, une comédie dramatique où on va y retrouver quatre hommes, Christian, Simon, Martin et Étienne. C'est drôle parce que j'ai eu le goût de dire jeune homme parce que règle générale, c'est ce qu'on voit à la télévision. Mais là, non, c'est un quatuor de quinquagénaires. Mon Dieu, Bernard, c'est parfait pour toi, ça?
Oh, les 50 ans et plus.
Exact.
Alors là, oui, OK. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas le fait que ça porte.
Je t'ai eu, là. C'est plus quoi dire.
C'est pas le fait que ça porte, que la série porte sur les cinquantenaires. C'est le fait qu'elle est réalisée par Trogi, Ricardo Trogi. Moi, je l'aime beaucoup, Trogi. J'aime beaucoup son regard. J'aime son humour.
Oui.
Puis les quatre acteurs, franchement, ben, ils sont connus. Le Christian Bégin, Normand Danneau, Alexis Martin, Yannick, comment tu parles? Trusdale,
oui, exact.
Lui est un peu moins connu, mais les trois autres sont très, très connus.
Mais
là,
tu vois, pour Christian Bégin aussi, c'est un retour au jeu quand même. Lui, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu dans un rôle campé, un rôle où on va le revoir semaine après semaine.
Ouais.
Moi, ce que je trouve chouette, c'est qu'on va aller explorer l'histoire d'une grande amitié entre ces quatre hommes-là.
Ouais.
Une amitié qui dure depuis plus de 25 ans. Et surtout, ce qu'on nous a promis, c'est quelque chose de très irrévérencieux.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va aller fouiller dans l'amitié puis la tendresse, évidemment, de ces personnages-là. Mais ce qu'on dit, c'est que les hommes dans la cinquantaine, des fois, ils ont un regard sur la société actuelle qui est, puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est vraiment le texte qui le dit,
oui,
qui est dépassé parfois.
Oh, oh oui, on a un regard dépassé.
Ben, écoute, Bernard, je réitère, ce n'est pas moi qui dit ça. Mais ce que j'aime, c'est qu'on va aller jouer un peu, peut-être dans les stéréotypes des hommes d'une cinquantaine d'années qui ont un regard sur la société actuelle, pardon, où il se passe plein de choses. Parfois, on est un peu plus déconnecté. Bernard, je sais que tu es très friand du message texte, mais il y a plein d'hommes de ta génération qui ne le sont pas. Et donc, ce que ça peut engendrer comme situation, les réseaux sociaux aussi.
Ouais.
Je pense que le filon de cette histoire-là, qui va être écrite d'ailleurs, la série est écrite par Jacques David, qui a fait les parents, je pense que c'est une très, très, très bonne idée.
D'ailleurs, rappelons le nom des quatre personnages.
Oui.
Il y a Simon le Tendre,
oui,
qui, lui, vient de se faire larguer. Retenez, là, Simon le Tendre, lui, un peu loser, si je comprends bien.
Bien, on ne sait pas encore, mais il a le cœur brisé, en tout cas.
Bon, il a le cœur brisé. L'homme seul, Christian, la liberté.
Oui.
Martin, l'amoureux, lui, il est en couple.
Laisse-moi deviner, ben c'est ça, il est amoureux, lui.
Oui, il est en couple. Lui, je pense que lui, ça va bien. Puis il y a Étienne Lebeau, qui est l'homme gay célibataire qui rêve de trouver l'amour et la famille, éventuellement, de fonder une famille avec son chum. Bon.
Non, mais juste là, juste dans le nom de famille des différentes personnes qu'on va pouvoir rencontrer, leur qualificatif est là.
Ben oui, je sais. C'est pour
c'est
ça que je
quand même exact, mais je pense que ça va nous aider encore plus à avoir une vision très cocasse de cette génération, puis avoir des acteurs aussi comme Christian Bégin, comme Alexis Martin.
Ouais.
Ça va nous permettre d'aller rencontrer ces hommes ordinaires qui sont très politically incorrect.
Ça, j'aime ça.
Moi aussi, j'adore.
Qu'on ne verse pas dans la rectitude politique. Par exemple, je pense que c'est Trogi ou le scénariste là, qui dit qu'ils vont... ils résistent notamment ces hommes-là, là, ces personnages-là, à la dégenrisation. Là, le fait que bientôt, on n'aura plus de papa et de maman. Là.
Bien, évidemment, je veux dire, c'est toute une génération. Ma génération à moi, on dirait qu'on est de plus en plus conscientisés à tout ça. Mais évidemment, les générations comme la tienne, mon cher Bernard, vous n'avez pas grandi avec cette idée que le genre de l'humain n'est pas nécessairement important. Et donc, c'est sûr que ça crée des conflits. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée. Il faudra patienter, par contre, l'année prochaine pour pouvoir faire la connaissance de ces personnages-là. Comédie dramatique qui s'appellera Les Mecs.
Très bien. Parlons maintenant de Robert De Niro et de Al Pacino.
Mais si je me trompe pas, c'est tes préférés, Bernard.
C'est parmi mes préférés.
Parmi tes préférés.
C'est des acteurs que j'adore, que j'aime beaucoup. Alors, pour moi, Robert De Niro, c'est notamment le parrain de...
But never think it applies to my family. Senator, you can have my answer now if you like. My offer is this. Nothing.
Oui, ça c'est Al Pacino dans Le Parrain 2. Hein?
Exact.
Et Robert De Niro est aussi dans Le Parrain 2. Oui, alors c'est ça. La raison pour laquelle on en parle, c'est que les deux ont donné une entrevue au New York Times ensemble parce qu'ils s'apprêtent à faire un film ensemble, The Irishman.
Ben, le film est déjà tourné. Il va sortir donc le 1er novembre prochain dans les cinémas et ensuite le 27 novembre sur Netflix. Un film qui s'appelle The Irishman et un texte que tu m'as envoyé, Bernard, et qui est particulièrement intéressant dans le New York Times, c'est cette idée que ces deux acteurs-là, Robert De Niro et Al Pacino, se sont rencontrés à la fin des années 60, mais qui, depuis qu'ils évoluent, pour notre plus grand plaisir dans l'univers du cinéma, ils ont très rarement joué ensemble, les deux. C'est-à-dire qu'eux ont eu des rôles légendaires, ne serait-ce que dans Taxi Driver, Scarface, dans Le Parrain, bien évidemment. Mais chaque fois, ils s'amusent à se croiser. Ils ont maintenant Al Pacino à 79 ans, De Niro à 76 ans. Et à chaque fois, ils se croisent. Chaque fois, ils échangent des notes sur leur jeu. Chaque fois, ils s'amusent énormément. C'est vraiment un super beau texte. Tout ça pour nous faire la promotion, dans le fond, du film de The Irishman, qui est réalisé par Martin Scorsese.
Tu t'imagines c'est incroyable. Le trio Scorsese, De Niro, Pacino, dans le même film.
Puis pas juste ça, dans l'univers qui est le plus fort pour ces personnages-là, pour ces acteurs-là, puis même pour ce réalisateur-là, celui de la mafia, tu sais.
Oui, oui.
On arrive avec quelque chose qui va être vraiment très, très fort. Le texte, si ça vous intéresse, allez le lire parce qu'on réalise à quel point de travailler les deux ensemble dans The Irishman et dans les deux autres films qu'ils ont fait précédemment où ils se sont rencontrés, ça leur a permis de pousser encore plus loin leur jeu d'acteur, ça leur a permis de développer une complicité, ça leur a permis d'arriver à un stade où ils réalisent que les deux ont eu des très, très grandes carrières puis qu'ils sont capables de s'influencer d'une certaine manière. C'est vraiment hyper intéressant.
Là, on va écouter une de mes scènes préférées dans laquelle joue Al Pacino, Parfum de femme.
No mistakes in the tango, Donna. Not like life. Simple. That's what makes the tango so great. If you make a mistake, get all tangled up. Just tango on.
Quelle scène exceptionnelle! Est-ce que t'as aimé cette scène-là, toi, quand il danse le tango, il est aveugle, il joue le rôle d'un colonel dans les Marines, il est aveugle, et là, il danse le tango avec une jeune femme qu'il a rencontrée au restaurant.
Mais c'est un classique.
C'est une scène extraordinaire.
Absolument.
Oh, que j'aime cet acteur-là. En tout cas, bref, Scorsese va les réunir dans ce film qui va sortir.
The Irishman.
Voilà, on a bien hâte.
Oui, au cinéma le 1er novembre, puis sinon 27 novembre sur Netflix.
Très bien. Parle-nous un petit peu vite de la disque. Hein? C'est la disque en fin de semaine.
Un petit clin d'œil sur la disque qui va être à surveiller en fin de semaine. Évidemment, l'auteur-compositeur-interprète Les Louanges qui, cette semaine, a gagné plusieurs Félix déjà, parce que c'était le premier gala. Donc, il y avait le gala de l'industrie, mais aussi le premier gala qui était animé par Pierre Lapointe. Ce sera un nom à surveiller en fin de semaine, dimanche. Il y a aussi Alexandra Streliski, donc la pianiste qui a gagné pour le meilleur disque instrumental avec l'extraordinaire Inscape. Elle aussi, elle va être à surveiller, donc ce dimanche. Et sinon, moi, j'ai un petit coup de cœur, je dois l'avouer, pour les trois accords, parce que chaque fois qu'ils lancent un disque, ils se retrouvent au gala de la disque, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné quand même. Et donc, ce sera à surveiller encore une fois ce dimanche, je vous le rappelle. Gala de la disque, diffusé dès 20h à ICI Radio-Canada Télé. Il y a un tapis rouge auparavant, il y a une émission d'après-gala par la suite. Fait qu'à ne pas manquer, ça va être une belle soirée musicale, je pense.
Oui, voilà, c'est ça. Pour se rappeler qu'on a une belle culture et qu'on a des artistes et de la musique exceptionnel. Valérie Roberts, c'est toujours un plaisir.
Ben, c'est réciproque, Bernard.
On se reparle vendredi prochain.
Absolument.
OK, salut. Dans un instant, on va vous parler des conclusions définitives de l'enquête sur l'écrasement du 737 de Lion Air. On va faire ça avec Jean Lapointe, pilote.